Bonjour et bienvenue dans La Voix Libre. La Voix Libre, l'émission de l'association Picassoft, qui s'est donnée pour mission d'héberger des services libres et de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, et puis à une approche libriste, émancipatrice, inclusive des technologies numériques. Aujourd'hui, on va parler du sujet sensible de la surveillance, mais plus précisément du capitalisme de surveillance. On va voir que c'est important de le préciser. Je suis pour cela aujourd'hui avec deux membres de Picassoft, Andrés et Rémi. Salut à vous.
Salut André.
Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Christophe Mazzuti. Bonjour Christophe.
Bonjour Audrey.
Alors Christophe, tu es historien, tu es philosophe, docteur donc en histoire, philosophie des sciences et des techniques. Tu es aussi activiste, co-administrateur de l'association Framasoft, dont on parle beaucoup dans cette émission. Donc, tu as Framasoft sous le pseudo maintenant bien connu de Framatoff. Tu es également chargé des affaires européennes au CHU de Strasbourg. Tu es chercheur associé à l'Université de Strasbourg. Donc, de multiples casquettes. Je ne sais pas laquelle tu souhaiterais porter, lesquelles tu souhaiterais porter aujourd'hui, mais en tout cas, tu as publié plusieurs ouvrages. Et plus récemment, tu as publié « Affaires privées ». Affaires privées aux sources du capitalisme de surveillance chez CF Éditions. Et dans ce livre, tu conduis donc une analyse historique, philosophique, économique, sociale, culturelle aussi, du capitalisme de surveillance. Tu nous donnes plusieurs outils conceptuels pour essayer de comprendre sa mise en place et puis pour essayer d'avoir de prendre une perspective, d'abord de la perspective par rapport à ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Alors, tu as fait une présentation déjà de ton livre lundi dernier lors d'un visio apéro. Et pendant cet apéro, c'était plutôt un débat qu'un apéro, pendant cette visio, tu nous as expliqué que tu avais donné la définition du capitalisme de surveillance à la fin de ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de cela, au-delà de vouloir nous tenir en haleine jusqu'à la fin? Pourquoi est-ce que tu as souhaité faire comme ça? Quelle a été ta démarche dans ce sens?
En fait, c'est une démarche analytique. L'idée du capitalisme de surveillance, c'est que c'est une déclinaison du capitalisme, ça reste du capitalisme. Donc, c'est un mode d'être. Et si on cherche à le définir en tant que, si on veut réfléchir en tant que philosophe ou en tant qu'historien, il faut absolument commencer à définir les concepts qui vont aider à construire une représentation. Et à partir de là, on va partir d'une idée du capitalisme, de la manière dont il se décline sous différentes formes relatives aux techniques, relatives aux infrastructures qui sont mobilisées et relatives aussi, évidemment, aux discours et aux représentations qui en sont données. À partir de là, je pense que le mieux, c'est de donner petit à petit des pistes, des éléments de convergence qui vont nous aider à comprendre ce qu'est le capitalisme de surveillance pour finalement le définir à la fin. Parce que si je le définissais au début, il n'y aurait plus rien à dire. C'est-à-dire qu'en fait, le principe d'un bouquin, c'est aussi de pouvoir faire, comment dire, donner quelques pistes et surtout ne pas estimer qu'on est soit même détenteur d'une vérité absolue, et à ce moment-là, laisser le lecteur aussi se faire sa propre idée.
Oui, d'accord. Et oui, donc c'est tout un. Tu souhaites accompagner le lecteur justement dans la compréhension de tous ces mécanismes de convergence, puisque ce que tu expliques, c'est que on a l'impression d'avoir des révélations, d'être étonné de beaucoup de choses aujourd'hui, mais qu'en fait il n'y a rien de nouveau, que c'est justement le parcours historique que tu fais permet de comprendre cela. Et tu montres notamment donc que depuis les années 60, hein, c'est l'étude tu la reprends à partir des années 60, que ce capitalisme-là est d'ordre systémique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les différentes composantes justement qui ont convergé jusqu'à aujourd'hui au niveau du capitalisme de surveillance?
Ah ben ça va, on a une heure, ça va être bien.
Oui, c'est vrai, ce sont des questions un petit peu larges. c'est compliqué de restreindre, en effet.
Bon, je repars sur la fin de la première question. Bon, c'est quoi le capitalisme? C'est un régime d'accumulation avec des usages, des modes d'exploitation. Et puis, on peut après se contenter de cette définition, aller trouver chez Marx les différentes déclinaisons du capitalisme, et savoir comment est-ce que c'est un régime qui prive, par exemple, les classes, enfin certaines classes de savoir ou de biens, sur le profit, sur l'autel du profit. Bon, clairement, voilà, ça c'est une manière d'approcher les choses. Maintenant, c'est pareil pour la surveillance. La surveillance, c'est quelque chose, c'est un concept qui est très ancien. Tous les gouvernements ont cherché à surveiller, par exemple, leurs citoyens, enfin leurs citoyens, donc les sujets. Pourquoi? Parce que c'est l'exercice du pouvoir qui veut ça. Et il n'y a pas de pouvoir sans surveillance. Ensuite, le contrôle, c'est pareil. On peut chercher à contrôler sa population. C'est pareil. Ce sont des concepts et des idées qui sont très anciens. Donc, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et j'ai choisi de ne pas faire comme, par exemple, le dernier bouquin de Félix Tréguer, qui parle de la société de contrôle, de la manière dont finalement le capitalisme de surveillance est va chercher ses racines dans l'idée du contrôle et de l'exercice du pouvoir déjà bien ancien, hein, au moins au minimum depuis la Renaissance. Là, l'idée, c'est de partir sur l'idée que, en fait, le capitalisme de surveillance est dépendant de plusieurs choses. Il est dépendant, notamment, en particulier, hein, tout de suite, de ses contraintes techniques. Ces contraintes techniques, elles sont déjà surmontées dès les années 60, à partir du moment où on commence à travailler des banques de données. C'est différent de faire des fiches, comme Bertillon faisait des fiches au début du XXe siècle pour la police française, que de faire des fiches informatisées. Il y a tout un travail de profilage qui peut se faire, et surtout, on va commencer à automatiser non plus comment dire, le stockage de l'information, mais le travail sur l'information. Et à partir du moment où on commence à faire un travail sur l'information, l'information devient un capital. Alors là, je parlais tout à l'heure du gouvernement, mais évidemment, toutes les institutions du capitalisme sont concernées. Ça va de tous les acteurs économiques, c'est-à-dire la banque en particulier, les assurances, mais aussi les acteurs gouvernementaux vont utiliser des éléments qui vont déjà être travaillés par les acteurs économiques dans les mécanismes décisionnels de l'art de gouverner, en quelque sorte. C'est pour ça que, par exemple, dès la fin, en 1968-69, commence à arriver un grand projet de National Data Center aux États-Unis, et avec lui, tout son cortège de discours controversés sur l'intérêt d'un tel centre national qui stockerait toutes les informations des citoyens, sur les citoyens. Alors que l'idée de ce grand centre de données, c'est une idée qui relève des économistes et des sociologues qui avaient besoin d'outils. Hein. Donc, par exemple, on a toujours besoin pour un gouvernement d'avoir des données à disposition. Prenons l'exemple de la carte, la cartographie. C'est quelque chose qui est très intéressant pour les géographes, bien entendu, mais aussi c'est un instrument de gouvernement. On ne gouverne pas un pays si on ne sait pas quelles sont les richesses du sous-sol, par exemple. À partir de ce moment-là, la carte devient, le, pardon, le, la base de données devient en quelque sorte une forme de carte pour un gouvernement. Et voilà. Et donc, pour faire court, hein, pourquoi les années 60 et pourquoi relire à ce moment-là la révolution informatique? C'est parce que les convergences se sont produites entre des structures techniques et des moyens techniques, c'est-à-dire l'apparition de l'ordinateur comme un bien industriel et la production d'ordinateurs comme un bien industriel est utilisée. La deuxième chose sont les discours sur la surveillance, c'est-à-dire que les controverses sont nées à ce moment-là. Toutes les controverses qu'on connaît aujourd'hui, elles sont conceptuellement énoncées à ce moment-là. Et puis la troisième chose, c'est la réception dans les représentations, la réception de ces discours dans le public.
D'accord. Donc, en effet, donc les controverses, finalement, tout le débat que nous avons actuellement, les controverses existaient déjà à cette période-là, justement sur ces moyens techniques. Et alors, tu parlais justement aussi de ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est vrai que, il y a une approche finalement assez différente entre les controverses en France, en Europe et les controverses aux États-Unis. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des discours justement pour dénoncer un petit peu ces instruments de gouvernance. En France, tu expliques qu'on s'attache plus aux impacts de la surveillance sur le sujet, donc la soumission du sujet, de l'individu à la surveillance. Or, aux États-Unis, il y a un autre mouvement qui s'attachait peut-être davantage aux conséquences de la surveillance sur les collectifs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cela? Et puis pourquoi, pour toi, c'est très important de ne pas s'attacher seulement à la défense des libertés individuelles et puis de s'attacher surtout à la défense des libertés collectives et d'élargir un petit peu le spectre, justement.
Ça, c'est la partie un peu philosophique de l'ouvrage. Aux États-Unis, il est né un mouvement, et donc il est né justement au début des années 70, un mouvement qu'on peut qualifier, on a commencé à le qualifier comme ça dans les années 90, c'est le mouvement des surveillance studies, des études sur la surveillance. Les études sur la surveillance, en fait, elles sont anciennes, hein, comme je le disais tout à l'heure, dès le début des années 70, on a des bouquins qui paraissent sur la dénonciation de l'atteinte à la privacy aux États-Unis, mais aussi en France. Les bouquins ont d'ailleurs été traduits dans plusieurs langues, ce sont des best-sellers mondiaux qu'on a peut-être un peu oubliés, mais qui dénonçaient exactement ce qu'on dénonce aujourd'hui depuis l'arrivée des révélations de Snowden. Donc, ce mouvement-là, il est né aux États-Unis sur des bases très françaises. Les bases, eh ben, elles sont connues par tout le monde, hein. C'est Michel Foucault, surveiller et punir. C'est Michel de Certeau. C'est l'idée que voilà, on peut mener une critique des institutions à partir du moment où on commence à s'interroger sur la manière dont l'exercice du pouvoir se fait et sur comment il se rationalise, c'est-à-dire comment on va établir des relations de pouvoir à partir des institutions et quels sont les discours qui émanent de cela. Alors, on entre à ce moment-là dans une critique, évidemment, du pouvoir. Donc, c'est ce que Foucault a fait avec l'émergence de la biopolitique du biopouvoir. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui a été réintégré, si vous voulez, par les surveillance studies. Mais l'autre point qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on s'interroge sur le pouvoir et sur l'exercice du pouvoir, on s'interroge sur cet exercice, sur les sujets. L'idée du panoptique, par exemple, que reprend Foucault à partir des écrits de Jeremy Bentham, c'est exactement ça, c'est-à-dire la manière dont le gouvernement rend sa nation autonome à partir du moment où elle peut se surveiller elle-même. D'accord?
D'accord.
C'est un. Ce que fait Bentham, ça c'est bon, c'est un peu technique, mais là, peut-être pas rentrer dans le détail, mais ce que fait Bentham, c'est exactement ça. C'est essayer de montrer comment, pas oublier que Bentham, il écrit, il y a des guerres de religion, il y a des guerres civiles, donc on écrit dans une situation où il faut absolument trouver un moyen pour qu'il y ait la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut que on puisse être arrivé à un certain seuil de maturité pour qu'on puisse se surveiller, etc. Bon. Foucault reprend ces idées-là, mais si on en reste là, je dis pas que Foucault en est resté là, attention, hein, mais si on en reste là, on reste coincé sur une représentation de l'exercice sur le sujet, et le sujet ne peut jamais être indépendant du pouvoir sur lequel il est exercé. Les surveillance studies aux États-Unis se sont doublées d'une autre approche, qui est une approche sociologie, anthropologie, sur la manière justement dont le pouvoir est représenté, ressenti, et pas seulement subi par les populations, et la manière dont se font les résiliences et les résistances à cela. C'est-à-dire qu'en fait, à tous les niveaux institutionnels et de population, c'est-à-dire au niveau individuel comme au niveau des organisations collectives, il y a des résistances. Toujours, il y a toujours des résistances. Même les institutions publiques elles-mêmes, je reprends encore cette histoire du National Data Center qui fait quand même l'objet de plusieurs pages dans le bouquin, les institutions elles-mêmes émettent des contre-avis, des contre-indications et des critiques très virulentes par rapport à cela. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles en 1974, le Privacy Act aux États-Unis sera voté, qui vise à défendre la vie privée par rapport à toutes les banques de données. Donc c'est quelque chose qui est quand même récurrent. Et si on se contente un petit peu de voir dans les révélations Snowden l'idée que oui, voilà, les gouvernements ainsi que les avec la collaboration des grandes entreprises type GAFAM nous espionnent, bah, nous espionnent, mais nous espionnent nous en tant qu'individus, mais pas seulement les individus. Hein. On sait très bien que la question, elle dépasse de loin les individus. Les États-Unis ont à ce moment-là espionné les gouvernements, d'autres gouvernements, soi-disant alliés d'ailleurs, et aussi des entreprises. Donc, il s'agit d'un élément qui touche tout le monde, y compris les organisations. Et à partir de là, bah, quelles sont les formes de résistance? Les formes de résistance, elles ont toujours été collectives. Regardez, par exemple, en 1974, l'affaire Safari, quand le gouvernement français s'est trouvé, pris la main dans le sac en train d'essayer de monter tout un système de bases de données qui joignait les bases de données de la sécurité sociale et les bases de données civiles. Bon, bah, tout de suite, il y a eu un grand...
Oui, levée de
Il y a eu des
bouclier.
manifs d'ailleurs, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la CNIL, d'accord? Donc c'est voilà. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que les modes de résistance, j'en parlerai tout à l'heure parce que j'ai quelques idées sur la manière dont on devrait organiser ces formes de résistance. Mais en tout cas, les formes de résistance n'ont jamais été que individuelles. Nous n'avons jamais été que des individus soumis au pouvoir des banques de données. Nous avons toujours eu ces éléments de résilience. Et à partir de là, ça veut dire aussi, et paradoxalement, c'est aussi le grand drame de l'affaire, c'est que le modèle de capitalisme surveillance dans lequel nous vivons et que nous sommes, nous, en tant que consommateurs, bien heureux de trouver dans Facebook les couchers de soleil de Madame Michu, eh bien, c'est aussi parce que c'est un souhait collectif, ce sont des choix collectifs.
D'accord, entendu. Alors, à ce moment-là, pour sortir de ce modèle de capitalisme de surveillance, tu vois, bon, tu m'as devancé un petit peu les questions sur lesquelles je souhaitais t'amener. Pour sortir de ce modèle de capitalisme de surveillance, donc, on ne peut pas faire seulement confiance aux institutions pour le faire, j'imagine. C'est à nous. En tant que sujet, mais surtout en tant que sujet organisé collectivement, donc de résister de manière collective. Mais pour cela, quel genre d'infrastructure, quel genre d'organisation on peut mettre en place et entretenir ensemble pour essayer justement de se sortir de ce modèle de capitalisme de surveillance qui s'entretient lui-même avec les technologies qu'on a actuellement?
Allô, oui,
Oh,
ça
Christophe,
marche?
oui, est-ce que tu m'as
Pardon.
entendu?
Je crois que oui. Comment on en sort? Bah, ah oui, tout de suite, comme ça.
Alors, je vais essayer de trouver une petite transition. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Hein. C'est terrible de faire une interview si rapide sur un livre qui détaille pourtant toutes les
Non,
étapes
mais
et qui donne plusieurs pistes.
c'est bon, je peux répondre, il y a pas de problème. Juste une petite étape, c'est que comment dire, là où je voulais en venir à propos de cet aspect collectif du capitalisme de surveillance, c'est que il répond en fait au régime moderne qui nous correspond aujourd'hui. L'économie surfinanciarisée, l'industrialisme, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments que j'interroge dans le bouquin. Et puis il y a un élément en particulier que j'interroge, et je suis loin d'être le seul là-dedans, hein, c'est le solutionnisme. Solutionnisme, c'est-à-dire l'idée que toutes les solutions techniques, technologiques à nos grands problèmes du monde seront trouvées par la Silicon Valley. En gros, l'idée que l'informatique devient un instrument de gouvernance, qu'on automatise la décision, etc. Et puis bon, bah, Solutionniste, c'est l'application pour portable qui va tous nous sauver du coronavirus.
Voilà, la solution à la
Voilà.
crise sanitaire.
Ça, c'est du solutionnisme. Et ce solutionnisme-là, justement, il est une idéologie. Et à ce moment-là, il faut en sortir. Et c'est là que ça joue parce que avec ce solutionnisme, les gouvernements ont perdu leur crédibilité. Il y a une grande crise de confiance actuellement vis-à-vis du politique. Cette crise de confiance, elle se traduit, selon moi, dans tous les mouvements altères qui se créent. Pourquoi ils se créent? Parce que on va chercher des institutions là où, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, on va créer quelque chose. Et c'est ce qui a été théorisé, notamment, sur l'idée de préfiguration. C'est-à-dire qu'en fait, les mouvements alternativistes, éco, etc., il y a beaucoup de mouvements qui se revendiquent, par exemple, de n'avoir aucun représentant. Typiquement les gilets jaunes. Bon, mais c'est pas le seul. Je veux dire, il y a beaucoup de mouvements dits autonomes, voilà, qui
Oui,
sont en
très
fait des
horizontaux, oui.
collectifs. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui préfigure quelque chose. C'est-à-dire, c'est en fait, on est dans la préfiguration, on préfigure des modèles, d'autres modèles de vie, des modèles économiques, des modèles de contribution. Et en ce sens-là, l'économie libriste a préfiguré, donc, dès les années 80, en fait, a préfiguré tout un mouvement qui tourne autour de la culture libre. Hein, je veux dire, c'est pas tout de suite, il n'y a pas eu d'ouvrage sous licence libre dès la création du concept de licence libre. Donc à partir de là, on va préfigurer. Donc c'est faire les choses. C'est un peu ce qu'on fait à Framasoft, hein. On fait des trucs.
Oui, c'est l'idée de dire qu'on a
Mais
besoin de pratiques, quoi. C'est ça, de pratiques
c'est ça.
collectives. On a besoin de faire ensemble, justement, de construire, bien sûr, de se poser des questions, mais de faire vraiment.
Exactement. Alors on fait. Et on fait quand même, on fait tant pis au besoin, on peut faire aussi contre. On peut faire avec, mais on peut faire contre. Et c'est ce qui peut préfigurer aussi des mouvements non acceptés, ce qui fait que, bon, bah oui, on n'est pas à l'abri de mouvements de violence, hein, à ce niveau-là, mais voilà, tout réside dans l'acceptation ou non, l'intégration ou non, dans les structures démocratiques de ces mouvements préfiguratifs.
Oui, et puis de donner la parole aux personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de la voir ou qui justement dans cette configuration-là ne l'ont pas, ne savent pas comment la voir. Alors tu as dit le mot important, de contribution, et puis on voulait te poser la question. Tu fais la distinction entre une économie de la contribution et une société de la contribution. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça et puis nous dire, je ne sais pas si c'est parce que tout tient à une question de culture justement et que l'économie de la contribution n'est pas suffisante parce qu'il faut justement construire toute une culture autour de cela.
Ben oui, tu viens de le dire. En fait, c'est ça. En fait, l'économie de la contribution, elle a été expliquée notamment par Bernard Stiegler, hein, et j'adhère complètement à ce qu'il dit, sauf que ce qu'il dit, c'est la chose suivante. C'est-à-dire qu'il part de l'idée que finalement, alors, je vais faire court, il ne dit pas il ne dit pas que le capital de surveillance a prolétarisé les individus, mais en fait, ça revient à ça. Voilà. On a été
J'emploie beaucoup ce mot-là,
prolétarisé.
c'est vrai.
Comment on a été prolétarisé? C'est-à-dire qu'on a été privé de savoir-vivre et de savoir-être. Et tous ces savoirs que finalement on laisse aux institutions du solutionnisme, hein, en quelque sorte, il faut les récupérer. Et pour ça, Stiegler pense que il faut trouver une solution d'émancipation à travers l'économie, une économie de la contribution. Bon, donc, ok, mais selon moi, elle ne peut passer qu'à partir du moment où on va se positionner en termes de revendication. On doit revendiquer des droits, on doit revendiquer plein de choses. On doit revendiquer des nouveaux équilibres, très bien, mais les revendiquer auprès de qui? Or, je viens de le dire, je pense
Plus confiance.
qu'on peut, voilà, et on ne peut passer, la solution, elle ne peut passer qu'à travers la préfiguration. Et cette préfiguration, en fait, elle est là aussi présente à plein de niveaux différents. Il n'y a pas deux camps. C'est trop facile de dire il y a deux camps. Il n'y a pas deux camps. Tenez, par exemple, je parlais de la contribution libre, par exemple, logiciel libre. Ben oui, quelle est la contribution de Microsoft au logiciel libre? Il y en a. Donc, c'est pas parce que ce sont des institutions comme ça, capitalistes, de surveillance, etc., qu'il n'y a pas en leur sein des discours divergents, des discours qui ne sont, il n'y a pas d'uniformisation. C'est-à-dire que la cohérence, elle n'est pas là où on pense. Et à partir de là, je pense qu'il faut plutôt une société de la contribution. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la contribution devienne culturelle. Pour qu'elle devienne culturelle, eh bien, il faut que les mouvements soient, comment dire, soient étendus, essaimés et de la cohérence, quels que soient ces mouvements-là.
D'accord, merci Christophe de nous donner quand même des pistes d'espoir, hein, justement, quand on pense à ça, on pense aussi à une société très, très diverse, justement, pour que chacun puisse s'approprier justement cette culture de la contribution et puis le fasse à sa manière et puis soit autonome. C'est vrai que c'est une piste quand même qui nous donne un petit peu d'espoir en ces temps un petit peu compliqués.
J'espère.
Oui, tout de même, c'est aussi un petit peu à ça, j'imagine que c'est l'approche historique, enfin, dans le sens quand on est un petit peu désorienté justement et qu'on a du mal à prendre du recul en temps de crise, j'imagine que c'est à cela aussi que sert la perspective historique. Et c'est pour ça qu'on veut lire des livres d'histoire comme le tien. Alors,
Ah, il
les
faut.
garçons, ouais,
Ah, pardon.
pardon, non, non,
Oui.
je
Non,
t'en
juste,
prie.
je voulais dire. Oui, c'est en fait, mais c'est une sorte de catharsis, hein, pour moi, que d'avoir terminé quand même sur une idée un peu positive, parce que de tout mon travail historique que j'ai fait, je suis tombé sur des citations, sur des choses comme ça qui préfigurent complètement. Enfin, là, pour le sens, le mot préfigurer, c'est pas vraiment le bon terme, mais qui nous rappellent vraiment, avec les termes, des termes qui sont très actuels et qui ont pourtant été prononcés fin des années 60, début des années 70. Comment finalement on allait arriver à une situation orwellienne, et c'est le cas. Et on peut pas dire on n'a pas été prévenu, c'est pas possible.
Oui, c'est ça, on
Et
peut pas être surpris.
le constat était du coup plutôt négatif, quoi.
C'est-à-dire qu'on a su, on avait les moyens éventuellement de bifurquer, comme aime bien le dire aussi Bernard Stiegler, mais malgré ça, on a été entraîné, quoi. Rémi, Andrés, pardon, je vais un petit peu monopoliser parce qu'en fait, je me rends compte qu'on poursuit l'interview parce qu'on n'a pas du tout envie de l'arrêter.
Mais
Christophe,
c'est très bien.
Christophe, tu nous disais que tu peux rester avec nous?
Je suis là.
Super. Bah à ce moment-là, on peut faire une émission interview sur tout le long. Rémi, Andrés, je ne sais pas si vous avez envie de partir sur un sujet en particulier, enfin, pour continuer de parler de la surveillance. On a pas mal dévié. Bien sûr, on va parler un petit peu de l'actualité, de ce qu'on voit aujourd'hui, maintenant qu'on a bien toute une perspective historique et des outils conceptuels qui nous permettent de mieux voir ce qui nous arrive. On va essayer d'en parler en étant un petit peu plus éclairé. Alors, Andrés, tu voulais nous parler éventuellement justement de ce que l'on vit actuellement, du solutionnisme technologique qui est en train de se cristalliser en ce moment. Est-ce que tu souhaites partir sur ce sujet-là?
Andrés
Andrés, est-ce
n'a
que
pas l'air
tu es
d'être
avec
là.
nous? Andrés, je ne le vois plus, je ne l'entends plus. Eh bien,
Bah, du coup, ouais, moi, j'avais quand même une
alors.
question.
Ouais.
Christophe, tu disais que toute cette surveillance-là, en fait, elle remonte. Enfin, les questionnements sur la surveillance remontent aux années 60. Que, effectivement, à l'époque, se dire qu'on avait des micros dans son appart, c'était problématique. Aujourd'hui, on va acheter du Google Home, du Amazon, des choses comme ça, où on va volontairement mettre des micros dans notre appart, dans notre poche avec notre téléphone. Donc ça, tu l'as expliqué aussi, c'est parce que c'est comme ça que la société a évolué et que maintenant, ben, on a envie de ça. Mais comment ça s'est passé? Comment on est passé de non, on veut surtout pas être écouté, à oui, je veux que mon téléphone m'écoute en permanence? Oui. Le capitalisme de surveillance s'appuie, l'un des piliers du capitalisme de surveillance, c'est le consumérisme, évidemment. Tout réside finalement dans une histoire de donnant-donnant. Je vais prendre l'exemple de la société Sears, qui était un grand pourvoyeur de commerce de détail aux États-Unis, hein. La tour Sears était longtemps l'une des plus hautes tours du monde aux États-Unis. Pour vous donner une idée des années 80, les années 80, c'est l'idée, enfin c'est la grande époque aussi des terminaux, des terminaux Telex, ce qui nous a donné à nous de notre côté le Minitel. Mais ce que Sears a mis en place notamment, c'est toute cette consommation par catalogue informatique numérique par réseau. Et comment dire? L'idée était de commencer à créer des solutions, notamment ces gens Tirole, l'économiste qui a donné un nom à cela, c'est l'économie, les modèles économiques biface. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément utile de donner, enfin de créer un rapport marchand à tous les services qu'on offre. C'est-à-dire qu'on peut très bien acheter des choses, mais dont la monnaie, en quelque sorte, le bien échangé n'est pas de l'argent, mais ça va être autre chose que nous pouvons produire à ce moment-là, par exemple, nos profils et nos données. Voilà comment ça s'est produit. C'est-à-dire que parce que j'y vois un intérêt au titre individuel, je peux, ma foi, en toute bonne foi, hein, eh bien, vendre en quelque sorte mon intégrité, l'intégrité de ma vie privée, en donner un petit bout parce que je suis réputé comme ayant tout pouvoir sur ma vie privée, ce qui n'est en fait évidemment pas le cas, pas plus qu'on a de pouvoir sur notre capital génétique, en tout cas, et en échange, je vais pouvoir avoir accès à des services. Alors les services de Sears, par exemple, c'était la possibilité d'avoir un catalogue en ligne et des réductions. Et plus je consommais et plus je donnais des informations sur moi, plus je mobilisais des données, et avec mon consentement actif, j'avais des avantages que d'autres n'ont pas. Et comment dire, ce glissement de la consommation vers l'intérêt individuel qui a fait que finalement la consommation active sous surveillance, c'est créé exactement comme dans une entreprise. On crée des systèmes de surveillance pour monitorer la productivité des ouvriers. Et bien de la même manière, on s'est tous mis sous monitoring.
D'accord. Et donc là, bon, il y a un intérêt individuel très clair. Et par rapport à ce qu'on vit en ce moment, donc par rapport à la crise sanitaire justement, finalement, donc là, ce serait un intérêt collectif plutôt de pour se protéger, pour se protéger du virus, bien sûr, de manière individuelle, mais pour écourter le plus possible cette crise sanitaire, que l'on pourrait consentir à cette application de suivi de contact, mais est-ce que pour toi, donc ce consentement n'est finalement pas si forcé que ça?
Excuse-moi, tu peux répéter la question? J'ai pas bien compris.
Oh, pardon, oui. Non, je disais que par rapport à donc sur le modèle biface, le fait que l'on ait un intérêt individuel à vendre nos données entre guillemets. Par rapport à cela, je mets en opposition ce que le consentement que l'on nous demande aujourd'hui par rapport à l'installation de cette potentielle application Stop Covid. Je voulais te demander si là, étant donné qu'il s'agit plutôt d'un intérêt collectif, c'est-à-dire l'affaiblissement de la crise sanitaire, est-ce que le consentement de l'installation de cette application est forcé, c'est-à-dire qu'on demande un volontariat qui va être en fait un petit peu obligé, ou est-ce que c'est toujours, ou est-ce que nous, finalement, on en vient à consentir vraiment, sincèrement, à l'installation de cette application et au suivi généralisé?
Oui, alors là, c'est d'un autre consentement dont il s'agit, hein. C'est le consentement contrôle.
Oui.
Là, sur cet aspect-là, je veux dire, quand on passe un permis de conduire et qu'on accepte de toujours trimballer avec soi un permis de conduire, on consent bien à se plier à quelques règles. Donc à ce moment-là, le consentement qui va être demandé par rapport à l'application Stop Covid, c'est un consentement qui est somme toute tout à fait classique. Je veux dire, pour qu'on puisse contrôler la population, contrôler enfin tous les avantages qu'on va pouvoir trouver à cette application, plus ou moins justifiés, bon, bah, on va faire en sorte que les gens consentent parce que on relève du contrat social à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une institution publique, l'autorité. Oh, pardon, j'ai sonné. C'est une autorité qui nous dit ce qu'on va devoir faire et on consent tous à vivre sous le même régime de loi et de droit. Bon, ça c'est une chose. Après, le consentement, il est, comment dire, il est aussi du point de vue si on parle par exemple du RGPD, par exemple au niveau européen, on a créé un système qui est assez contraignant pour les entreprises qui vont chercher le consentement. Mais on se retrouve à ce moment-là dans le même système que j'ai cité tout à l'heure avec Sears, c'est-à-dire qu'en fait, il est aujourd'hui plus facile d'exploiter des données consenties que des données non consenties. C'est-à-dire que si vous consentez à donner vos données, on va pouvoir pomper beaucoup plus de data de manière aussi beaucoup plus fine que les data qu'on peut récolter de manière comme ça, indifférenciée, généralisée. Ces données généralisées, de toute façon, elles ont déjà été prises. Je veux dire, ça fait une dizaine d'années que, de toute façon, les big data, les modèles qui sont derrière, les algorithmes ont déjà bien travaillé. Si je prends l'exemple de Axiom, la société Axiom qui est née justement dans les années 60, sous un autre nom, mais qui est née fin des années 60, aujourd'hui, elle a 50 ans de data sur la consommation. C'est-à-dire, c'est juste énorme. À partir de là, tous les modèles mathématiques que vous allez pouvoir faire, ils vont être plus ou moins fiables quand même. Je veux dire, c'est pas. Et puis en plus, ces sociétés-là, elles embauchent pas des amateurs. Donc voilà. Et ça, c'est le consentement au niveau commercial, au niveau de l'économie de service qu'on connaît aujourd'hui. Ce consentement-là, c'est celui-là qui, à mon avis, est le plus dangereux. Là, je ne parle que du consentement, hein. Je parle pas sur l'application Stop Covid, j'ai des idées, mais elles n'ont pas lieu d'être dans cette discussion.
La différence avec l'application Stop Covid, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle ne sera pas obligatoire, donc ce ne sera pas le consentement à participer à la société, ce sera vraiment le consentement à installer l'application. Et ce sera un choix qu'on pourra faire chacun. Du coup, c'est pas forcément le même consentement que consentir à passer le permis avant de conduire, par exemple.
Si l'application reste sur la base d'un consentement non obligatoire, on va se retrouver dans la même situation que, par exemple, à Singapour, hein, où ils l'ont. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit un gouvernement ultra démocratique. Hein, mais pourtant, c'est justement à cause de ça que ça n'a pas marché. Dire, si on veut être logique, à un moment donné, une telle application comme Stop Covid, si on veut l'appliquer absolument, bien que ce soit à mon avis complètement stupide, mais bon, admettons, il faut qu'elle soit obligatoire, sinon ça n'a pas de sens.
Et oui, déjà que son efficacité est très contestée, en effet, c'est au mieux, si on peut dire ça, bien sûr, ce serait déjà très peu efficace. On vous invite juste à aller voir la BD de G qui est sortie tout récemment, justement, qui s'appelle Stop Connery et qui explique bien cela. Donc voilà. Et puis, c'est Paola Forteza également qui a écrit beaucoup là-dessus, sur l'efficacité vraiment toute relative de cette application. Donc voilà, après, on peut se demander quel est l'ordre des priorités, quoi, hein, si l'application est aussi peu efficace. À ce moment-là, que se passera-t-il avec les données récoltées maintenant? Quelles prospectives on peut faire? Et puis voilà, c'est Edward Snowden aussi, tu en parlais, Christophe, en début d'émission, qui nous prévient bien du fait que on ne peut pas prévoir aujourd'hui les champs auxquels seront étendues l'application de ces données-là, c'est-à-dire qu'après, ce seront des données qui peuvent être utilisées justement à des fins politiques, etc. Et puis, le souci, c'est que c'est irréversible, quoi, hein, quand des mesures, quand des technologies comme ça sont mises en place, on sait que on régule pas, quoi, on revient pas en arrière ensuite, c'est bien ça le problème. Hein.
Là-dessus, j'ai encore peut-être quelques éléments peut-être positifs qui pourraient
Oh oui,
éclairer notre journée.
donne-nous-en.
Quand on fait l'histoire de toutes les... En fait, dans les années 70, il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, notamment des critiques venant d'institutions publiques, hein, sur la société des grands dossiers, les grands dossiers informatisés. En tout cas, et j'en fais une petite liste pour ce qui concerne la France, des dossiers, des projets de dossiers. Ça allait bon, évidemment de l'affaire Safari, mais on peut citer Gamine, on peut citer notamment la naissance du dossier STIC, enfin le fichier STIC de la police, etc. La conclusion de tout ça, c'est que c'est tellement le bordel. Je pèse mes mots, le bordel, c'est que en fait tout est tellement mal foutu parce que on est dans un régime où finalement un tel veut le pouvoir, l'autre veut le pouvoir aussi, et finalement on se tire tous les uns dans les pattes dans les on se tire tous dans les pattes les uns les
On
autres,
va l'idée, ouais.
que finalement ces dossiers-là on fait à chaque fois des grands flops par manque de méthode, par manque de structure, par bon. Et
D'accord.
finalement on peut se demander aussi si c'est pas en quelque sorte comment dire, intrinsèque à ces grands systèmes. Voilà.
Ouais. L'échelle est tellement grande qu'on ne maîtrise plus rien et puis qu'au final, ça donne, ça ne fait pas avancer de toute manière, quoi. C'est ça. Ok. Alors, justement, tu partais sur les idées positives quand même, ce que l'on peut essayer de faire, et puis les pistes vers lesquelles on peut se tourner pour essayer de voir un petit peu plus clair face à ce que l'on vit maintenant. Tu as quand même des pistes pour justement quand on essaye de se sortir de ces systèmes un petit peu trop vastes et où c'est le bordel pour que on puisse nous peut-être à plus petite échelle essayer de s'organiser autrement, donc dans d'autres systèmes des systèmes qui soient moins automatisés, où on puisse plus s'organiser entre nous. Alors, je patauge un petit peu, en fait, je voudrais t'amener sur le concept d'archipélisation, Christophe. Je voudrais que, si vous le souhaitez, alors Rémi Andrés, vous connaissez aussi un petit peu ce concept-là, mais c'est un concept important pour essayer de penser l'après, en fait, et pour essayer justement de résister collectivement à ce qu'on vit maintenant. Par rapport à la collecte des données aussi, etc. Ça a du sens. Comment est-ce qu'on peut s'accrocher à ce concept-là et le traduire par rapport à ce qu'on vit et puis le traduire en pratique ensuite comme une solution qui ne serait pas de l'ordre du solutionnisme technologique?
Oui, l'archipélisation, bon, c'est quelque chose dont je parle en conclusion, hein, et c'est une ouverture, hein, du bouquin, parce que c'est quelque chose qui, chez moi, n'est pas encore tout à fait mûr. Faut chercher l'idée chez le philosophe Édouard Glissant. Alors, et pour la trouver, enfin, disons, pour essayer de lui donner corps, en quelque sorte. C'est aussi une lecture de plusieurs bouquins de l'œuvre d'Édouard Glissant, parce que enfin, si on connaît un peu Édouard Glissant, tout n'est pas comme ça de manière on va dire énoncé de manière kantienne, voilà, avec ou pire avec Spinoza, avec des scolies, avec des définitions bien faites. Non, on n'en est pas là.
D'accord, on n'est pas à la démonstration mathématique.
L'archipélisation, voilà, c'est ça. On n'est pas dans ce domaine-là.
D'accord.
L'archipélisation, c'est quelque... Bon, Édouard Glissant, pour vous donner une idée, c'est quelqu'un qui est formidable. Je vous invite à lire, à les voir sur Internet, les interviews qu'il a données. Plutôt les interviews d'abord avant de le lire, parce que c'est quelqu'un pour lequel on ne peut avoir qu'une sorte de comment dire, de sympathie. Oui.
Oui.
voire même une relation un peu plus émotionnelle avec lui.
D'accord, affectif, carrément.
Donc c'est un philosophe créole. Donc qu'est-ce que c'est? Pourquoi je dis c'est important qu'il soit créole, martiniquais, enfin antillais, martiniquais en l'occurrence? C'est que, comment dire? Il y a chez lui ce qu'on appelle la pensée archipel, c'est-à-dire c'est une relation à l'autre. On ne peut se construire de concepts, de pensées, d'argumentations qu'en relation avec l'autre. Bon, c'est quelque chose, c'est une idée qui est déjà ancienne, hein, l'autre comme moi, etc. Ça, c'est des trucs très courants en philo. Sauf que la richesse culturelle de la pensée ne réside pas dans une relation de pouvoir, ni dans une relation d'ordre, ni de relation centralisée. Sinon, on n'est pas dans une pensée discursive et comment dire, problématisée dans l'idée de discours, de discussion. On est dans une relation de pouvoir, l'exercice du pouvoir centralisé. Donc, lui, il prend l'exemple de, enfin l'exemple, la métaphore de l'archipel pour dire qu'en fait, plutôt qu'un continent, une pensée archipel est une pensée dont les éléments entre eux sont cohérents parce qu'ils sont dans un archipel, c'est-à-dire une entité qu'on va reconnaître, mais qui n'est pas uniformisée. Dans un archipel, il y a plusieurs types d'îles avec des faunes et des flores différentes. Bon, à ce moment-là, ces différences-là s'enrichissent mutuellement et forment l'archipel. Et donc, dans cette idée-là, ce que je disais tout à l'heure à propos de la préfiguration, tous ces mouvements préfiguratifs, pour moi, ils doivent intégrer une pensée archipel, exactement comme celle de Glissant, c'est-à-dire chercher leur cohérence non pas dans une doctrine ou dans un ensemble de préceptes politiques bien définis, mais dans une pluralité de doctrines, une pluralité d'idées politiques, certes, mais surtout dans une forme d'anarchie, au sens propre du terme, c'est-à-dire une forme de fédéralisation des pensées.
Ouais, d'accord. Et oui, et puis c'est le fait de dire qu'on peut trouver une cohérence qui sera d'autant plus riche et d'autant plus humaine qu'elle ne sera pas justement de l'uniformisation, quoi. Que la cohérence et l'uniformisation ne sont pas égales, loin de là, et puis qu'il est plus important de justement d'essayer de délibérer ensemble et de justement d'enrichir la diversité, de se parler, de prendre le temps justement de ne pas se laisser automatiser sur certaines décisions collectives pour trouver une cohérence de société qui convient à tout le monde, quoi. D'accord, je ne sais pas si Andrés Rémy, vous souhaitez ajouter quelque chose. Vrai qu'on arrive déjà à une cinquantaine de minutes d'émission. Malheureusement, je vois qu'il faut peut-être qu'on arrive à la fin. Alors quel peut être le mot de la fin justement par rapport à la défense des libertés collectives et puis de la sortie de ce capitalisme de surveillance? Eh bien, on va peut-être pouvoir rester sur ce concept d'archipélisation. Christophe, tu parlais aussi beaucoup d'éducation populaire, etc. Donc et les pratiques de Framasoft vont dans ce sens-là. Donc c'est à nous de pratiquer, de nous organiser ensemble pour essayer de sortir de ce modèle-là d'uniformisation du capitalisme de surveillance. Et puis voilà, la porte est ouverte quand même, hein. La voie libre.
C'est tout à fait, c'est ça. C'est pas un plaidoyer pour Framasoft, hein, le bouquin, mais bon, les conclusions semblent aller de soi.
Voilà, on peut faire quelques liens. Eh bien, écoutez, je vous propose, si vous souhaitez, qu'on se quitte là, on lance la musique. À moins qu'une conclusion alternative vienne de l'un de nous. C'est vrai qu'on a. On ne va pas s'arrêter sur les alternatives.
Je pense que c'est bon, la conclusion conclut bien.
Ouais, c'était une belle conclusion, Christophe. Alors à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir lancer la musique. Aujourd'hui, on écoute Cruise Control d'Azora. C'est en licence CC BY NC-SA.
Of these days, so keep on running off the line. Keep up with me. The truth's your son, you'll need some time. We're traveling and we're moving.
we're traveling and we're moving, take the trip to the great unknown. So keep the capsule, a gift from me. Keep the height, come touch the sky with me. It's all a stage to make you great. A small reminder for you to save the day. Light up the room with extra rays. Moving, sense no time, feel no anger, see no evil. Waves of thoughts make you perceive. We took one step too far for the cruise control. Waves of thoughts, they make you see. We took one step too far for the cruise control. Constant time will leave some tracks untraced behind. To keep the star burning bright, we need its rays to fight the night. Love and laughter in your eyes, it's not enough to keep us all alive. We're traveling, we're moving, took a trip to the great unknown. We're gonna escape this place for a long, long time. We're traveling, we're moving, took the trip to the great unknown. We're gonna escape this place for a long, long time.
Merci tous les trois d'avoir été là aujourd'hui. Christophe, merci beaucoup de nous avoir éclairé. Donc, comment est-ce qu'on peut te contacter et puis commander ton livre, en savoir davantage sur tout ce que tu nous as expliqué?
Alors, pour me contacter, le plus simple, c'est le pseudo Framatoff sur Mastodon, Framapiaf, ou bien mon prénom, mon nom, suivi de @framasoft.org. Voilà. Et puis pour trouver mon bouquin, allez sur cfeditions.com et vous trouverez, en même temps que mon livre, plein d'autres ouvrages super intéressants.
Et on rappelle le titre du livre qui est Affaires privées aux sources du capitalisme de surveillance.
Super, merci beaucoup Christophe, merci à vous, merci à tous les trois, et puis bonne journée et à bientôt.
Au revoir.
Salut.